jamais vu cette fissure sous la fenêtre.
C'est une petite musique qui commence tout doucement.
Ce bureau-là, ça va pas comme ça.
Une idée qui arrive de loin, sur la pointe des pieds.
Ce tapis, il m'énerve, c'est moche, c'est moche.
Et puis elle met en route un implacable mécanisme.
C'est marqué sur ta gueule que tu viens pas d'ici.
Alors une deuxième idée surgit.
Tes enfants ne pourront pas voyager.
Puis une troisième.
Comment ils vont faire sans électricité?
Et une quatrième.
Ça va être la guerre civile.
Une cinquième.
Ça sert à rien, ça sert à rien.
La musique est alors assourdissante.
Tout sert à rien.
Tout est mal, risqué, interdit.
Comment je vais faire?
Acheter des clubs, changer de matelas.
Mais tu vas devenir folle, comme toute ta famille de cinglés.
Les pensées sont tellement envahissantes qu'elles m'empêchent de prendre la moindre décision, même la plus simple.
Mais si je pars en chuchotant comme ça, c'est que je suis déjà folle.
Je ne peux plus travailler, réfléchir, avancer. Je suis au point mort. Ma boussole a perdu le nord. Sur le fil, une série documentaire de Laetitia Druard, réalisée par Arnaud Forest. Deuxième épisode, Personne sous influence. J'ai photographié, filmé ou dessiné à peu près tous les membres de ma famille. Mais je n'ai jamais enregistré mes grands-parents. Je garde quelques photos en noir et blanc de mon grand-père. Sur ces images Vélox au bord dentelé, il est jeune et je trouve qu'il a une tête de mafieux. Ça me plaît. Sinon, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de lui et pour être tout à fait honnête, je le trouvais assez bizarre. Et nous n'avions aucun lien particulier.
Parce qu'au début, il était tout le temps dépressif et puis qu'après, il est tombé dans la bipolarité, je ne sais pas.
La bipolarité est une maladie psychique chronique et elle est responsable de dérèglements de l'humeur avec une alternance d'états d'exaltation et de dépression. Elle est héréditaire. C'est la première fois que nous en parlons vraiment avec ma mère.
Il était prêt à faire n'importe quoi, il commençait des trucs et... Je te dis, faire les tranchées.
Les tranchées?
Les tranchées pour mettre l'électricité. Il avait fait des tranchées partout autour. Puis il avait laissé. Après, quand il n'allait pas, il laissait comme ça tout le temps. Alors la maison, elle était pleine de tranchées et puis c'était pas jamais fait, quoi. Puis même aussi, une fois, on était partis en vacances. Et en fait, arrivé en vacances, il a arrêté ses médicaments. Et là, il est devenu fou. Complètement fou. Mamie qui descendait de voiture parce qu'il voulait foutre la voiture dans le fossé.
Ces phases dépressives ou maniaques, si caractéristiques des troubles bipolaires, peuvent varier en intensité et en durée, selon les individus. Les médecins appellent ça des épisodes, comme dans une mauvaise série. C'est ce que m'explique le neuropsychiatre Didier Papetta.
Est-ce que vous auriez une image comme ça à donner qui représenterait la maladie?
Je mettrais une tête de Janus, une double tête. Une double tête qui représenterait le côté ombre et lumière, dans la mesure où ils peuvent être au fond du trou et broyés du noir, et puis à d'autres moments, quand ils sont en phase un peu d'excitation psychique, ils ont plutôt tendance à être solaires, au sens propre du terme. C'est-à-dire que quand on est autour, on ne peut pas ne pas être attiré, on ne peut pas ne pas être séduit par l'attraction qu'ils induisent.
Accouchez-toi ici pour le freinage.
À la fin?
Ouais.
Ok.
Voilà, c'est bon?
Ok, ouais, merci.
Merci à vous. Allez, let's go.
Attention, non. Attention. Regarde comme on voit tout haut. Regarde, de ce côté-là, allô. Wow. Oh, on est haut.
On va tomber.
On va tomber.
Le grand 8 émotionnel, je connais bien. Et ça pourrait expliquer pas mal de choses de mon enfance. Est-ce que la maladie s'exprime de la même façon pour tout le monde?
Dans les crises maniaques,
grande productivité de tout. Alors, je peux écrire la poésie, tout sort. J'ai rencontré Charlotte sur Instagram. Elle est photographe et a produit une série lors de sa dernière hospitalisation. Elle a été diagnostiquée bipolaire vers l'âge de 18 ans. Tout sort, sans censure, sans auto-jugement, on se pose pas la question. De toute façon, on a aussi un truc avec l'ego, justement, avec la sensation de hyper-confiance en soi, de mégalomanie, etc. Donc du coup, en plus, on se sent non seulement inspiré, mais en plus génie, génial, etc.
Je devais avoir mes premiers partiels à ce moment-là, et j'avais l'impression que c'était hyper facile, je réinventais l'énoncé, enfin... Je me considérais pas comme Einstein, mais en tout cas, j'avais l'impression d'avoir énormément de facilité, ce qui était en fait pas du tout le cas.
Dans la phase maniaque, vu qu'il y a une expression un peu extrême de soi, une désinhibition, on est un peu augmenté, quoi. Du coup, il y a beaucoup de choses, des symptômes qui sont la logorrhée, pas de sensation de faim, une force physique aussi. Ça, c'est vrai et assez impressionnant.
Moi, je faisais la fête, quoi. J'étais le roi de la fête. Je me sentais invincible dans le sens où j'étais capable de faire la teuf pendant une semaine non-stop, quoi. Et c'est un sentiment parfois de surpuissance. Justement, il y a Kanye West qui le dit bien dans sa chanson « Ike ». You see, that's what I'm talking about. That's my superpower, nigga. Ain't no disability. I'm a superhero.
I'm a superhero. Parce que moi, quand je suis dans ces périodes-là, je suis super bien. Enfin, je me trouve super bien. Je vais bien. Je suis capable de faire plein de choses. Je suis aussi capable de dire à mes proches des vérités qu'ils n'ont pas besoin forcément d'entendre. Donc je suis un peu cash, quoi, quand je suis sous hop. Myriam a été hospitalisée avec ma mère il y a 4 ans, au pavillon Van Gogh de l'hôpital psychiatrique de Poitiers, unité des Oliviers, deuxième étage. Ma mère avait fait une tentative de suicide, ce qui a permis de diagnostiquer son trouble bipolaire. Elle avait 60 ans. Juste avant ce geste épouvantable, elle enchaînait les périodes de dépression profonde et des états d'agitation intenses. Sauf que ni les psychiatres, ni ma sœur, ni moi n'avions analysé ces états comme des phases maniaques.
Est-ce que tu te reconnais parfois dans les comportements de ton père ?
Bah oui, par des signes quand même de... Tu te sens plus forte, plus... Tu vois, t'es capable de dire n'importe quoi... Mais à la limite, j'étais bien, donc je me trouvais pas malade.
Tout me va. Quand je suis en crise, tout me va, tout est possible, il n'y a plus de limites. Donc j'aime bien la mode et j'aime bien m'habiller, mais là, je peux tout mettre, il n'y a plus de... J'accumule, je mélange. Voilà, donc en fait, c'est quand même voilà, une espèce d'exubérance et en même temps de cette sensation de connexion. Il y a du mystique, beaucoup, ça c'est un classique. Et d'hyperconnexion. Alors moi, je l'ai avec les couleurs, la nature, les objets, mais après, ça devient aussi des surinterprétations. Je peux tout interpréter, le moindre chiffre, le mot, tout est signe, etc.
Ah cool, on fait encore un tour. Olé ! On va faire un tour ! On va monter !
Ouais ! Malheureusement, la période d'exaltation, quand on sent qu'on a beaucoup d'énergie, qu'on peut faire plein de choses, qu'on est très créatif, ça peut être un peu grisant à se dire on a envie que ça dure. Mais le problème, c'est que derrière, la chute est lourde de conséquences. Plus ça monte haut, plus ça peut être long après derrière de récupérer quand ça a chuté, quoi. Et quand là, on est un peu 6 pieds sur terre.
Ces derniers temps, avec ma sœur, les phases basses de ma mère, on les sentait venir de loin. Il y avait des signes annonciateurs. Quand on l'avait au téléphone, des lubies monopolisaient la discussion. Ça commençait toujours par un problème de thunes, puis c'était son appartement qui était devenu invivable, Et pour finir, c'était ses dents qui allaient tomber. Elle ne parlait plus que de ça. Ça tournait à l'obsession. Ensuite, on n'avait plus de nouvelles pendant plusieurs semaines. On savait alors que la chute était inévitable.
La première chose, c'est la cigarette qui m'écœure. Après, c'est pas trop d'entrain, pas trop d'envie, pas trop de tout ça. T'as rien qui t'intéresse. Et après, c'est baisse d'appétit. Puis après, la faim, c'est tu peux plus manger. Bah, les premières fois où ça t'arrive, quand tu sais, en fait, bah, tu stresses, quoi. Au début, tu stresses pas parce que tu sais pas, mais vers la fin, bah, tu stresses encore un peu plus parce que tu te dis, il me reste 3-4 jours à ce que je puisse encore rester chez moi, quoi. Non, puis t'as tout qui est brouillé dans ta tête, y a rien et tu trouves... Comme si ton cerveau, il était, je sais pas, bloqué, quoi. Il est bloqué et en même temps, il mouline bien.
J'avais mon appartement, je devais passer chez maman avant d'aller en soirée avec une copine. Et puis, je suis arrivée chez maman et puis, elle était en pleurs devant la télé. Elle ne voulait pas manger et puis elle m'a suppliée de rester avec elle, de revenir vivre à la maison parce qu'elle ne voulait pas être seule. Elle n'arrivait plus à manger, donc je lui ai dit, je te fais à manger, mais elle voulait que je sois là pour manger avec elle. Vraiment, elle était dans un état où... Enfin, personne ne veut voir quelqu'un comme ça.
C'est on perd pied. On perd pied, on a l'impression de ne plus avoir de prise sur notre réalité. On perd confiance, estime de soi, une espèce de mélancolie qui s'installe. Et le fait qu'on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir.
Dans mon cas... C'est des phases qui sont relativement courtes. La plupart du temps, maîtrisées. Quand c'est pas le cas, ça fait des dégâts. Mais disons que les périodes finalement les plus longues, et on associe plutôt le mot d'épisode que de crise dans ces cas-là, c'est les épisodes dépressifs, quoi. Et là, moi, l'épisode dépressif qui a démarré après ma deuxième hospitalisation à New York, il a facilement duré 2 ans. J'étais complètement en dehors du système, que j'étais pas capable d'apporter le support nécessaire à ma famille, ma femme, mes enfants et tout. Donc, ouais, je dirais que c'est ça le dernier épisode, évidemment, qui a été assez long.
Elle est arrivée à la maison dans un sale état. Je suis venue la chercher à l'arrêt de bus. Je suis face à un fantôme. Elle ne va pas bien du tout. Ça se voit sur son visage. Je sais qu'au bout de cette visite à la maison, il y a l'hospitalisation. C'est inévitable. Il y a quelques semaines pourtant, elle me tricotait des vêtements adorables pour mon fils qui allait naître. Des pulls, des pantalons, des chaussons et plein de bonnets. Je ne savais pas qu'elle savait faire ça. Est-ce que c'est une phase up qui l'a fait devenir la maman parfaite pendant quelques semaines? Aujourd'hui, elle ne tricote plus.
Mais alors, pourquoi t'allais mieux? C'est parce que les médicaments faisaient effet?
Ah, je sais pas. Moi, je crois pas, puisque je retombais 4-5 mois après.
Mais ce va mieux, il arrive pareil. C'est quoi les premiers moments où tu te dis, tiens, allez, ça va mieux? Enfin, comment
tu
ça arrive?
Déjà, t'es à l'hôpital, déjà. Oh là là, tu prends ta douche facilement, tu te laves la tête. Puis tu te sens bien, en fait. Tu te sens toujours mieux, bien. Le peu que tu fais, tu remanges. Bah, puis après, tu sais, ça, voilà, c'est tout qui va mieux. C'est... Puis bon, t'as plus envie de rester à l'hôpital, hein. Bah, c'est sûr. Hein, quand t'es mieux, tu veux partir, quoi.
Et puis, quand elle sort, eh ben, tout va bien. Et puis, finalement, elle se rend compte qu'elle veut revivre chez elle, qu'elle n'a plus besoin de personne. Des nouveaux projets arrivent, on a envie de faire des nouvelles choses, on a envie de changer de travail. On est content d'être à la retraite, alors que c'était quand même un point qui lui a fait peur et qui, je pense, aussi a accéléré un peu les phases de bas. Donc ça arrive toujours en été.
Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou ?
Partir aux Açores. Alors là, je me suis retrouvée aux Açores et pendant plus de 10 jours, j'ai vécu dans la rue. Je suis partie sans rien, quoi, pratiquement, avec pas grand-chose. Ce pas grand-chose a été dépensé en très peu de temps, le temps du voyage, tout ça. Et je me suis retrouvée à la rue, j'ai vécu la rue. Pendant une dizaine de jours, c'était une expérience initiatique pour moi, qui m'a apporté énormément, vraiment. Je referais bien. Et là, je suis pas en up. Non, j'ai fait des belles expériences au up.
Et jusqu'à la prochaine fois. Ça a fait ça pendant, je sais pas moi, 7-8 fois, hein.
Et puis vient l'hiver, novembre, décembre, et puis ça arrive toujours à ce moment, les phases de bas. Limite à se dire, bon bah en fait ça va être ça notre vie, ça va être maman qui a des hauts et des bas, et puis bah, on va devoir vivre avec ça, mais même nous quand on s'appelait, on se disait, bon bah elle retourne à l'hôpital, bon bah voilà.
Moi, j'étais complètement perdue. Ma sœur aussi. Ça nous aurait aidé d'avoir un diagnostic, d'avoir une notice pour comprendre les comportements de ma mère.
La phase maniaque, elle vous signe le diagnostic dès la première rencontre. Mais la plupart du temps, vous ne les voyez pas en phase maniaque. Un vrai délire maniaque, par exemple mégalomaniaque, ça se repère assez vite. Mais l'hypomanie, ça ne se repère pas toujours. D'autant que l'hypomanie, ce sont les symptômes qui sont socialement bien acceptés. Les gens qui travaillent beaucoup, qui sont des hyperactifs au travail, des gens qui non seulement travaillent beaucoup, mais en plus, le week-end, ils sont capables de faire la fête avec tout le monde, bah, socialement, c'est vachement bien accepté, ça. Et ceux qui ont ce qu'on appelle les troubles bipolaires du type 2, c'est-à-dire les troubles bipolaires les plus fréquents, mais les moins visibles, personne ne trouve ça pathologique. Et faire percevoir à des gens qui ont des épisodes dépressifs à répétition que les phases où ils sont très bien, ils sont peut-être trop bien, c'est pas si facile que ça. Donc ça suppose d'avoir un peu de recul.
C'est bien ça qu'il nous manque. Du recul, quand on est en pleine tempête. Quand la maladie s'exprime et donne ce qu'elle a de plus fort, on assure les arrières, on gère les urgences, et c'est tout. Dans une femme sous influence de John Cassavetes, Jenna Roland se bat contre des forces invisibles. À la fois fragile et grandiose, elle offre un spectacle bouleversant pour elle et pour les autres. Ce spectacle, j'ai l'impression de l'avoir vécu avec ma mère. Au regard du diagnostic de bipolarité, j'essaie de relire ces années passées sur des montagnes russes. Je me refais le film et franchement, on ne s'ennuie pas.
Avec ton deuxième mari, le père de Laura. Est-ce que t'as pas l'impression que quand vous vous êtes séparés, t'étais guidée par une force?
Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Je dormais plus, j'avais très peu besoin de sommeil. Puis, je me rappelle, j'allais en boîte de nuit. Je rencontrais des gars,
Donc là, tu viens de divorcer, quoi. Enfin, t'es
en séparation. En crise, en séparation, en tout ce que tu veux. Je me rendais pas compte hein, que tout se brisait, en fait. Non, mais c'est là que j'aurais dû être soignée, tu vois. Si le, tu vois, le médecin, quand je suis allée le voir.
Tu lui as dit quoi ?
Oh, je m'en rappelle plus. De toute façon, je lui ai dit que je me sentais pas bien, que... Je me souviens de lui avoir expliqué certaines choses, hein, mais c'est flou.
J'interprète la vie de ma mère au travers de ses troubles et c'est presque rassurant. C'est tellement plus confortable pour moi de tout mettre sur le dos de la maladie. Et comme il semblerait qu'on ait un peu de répit depuis quelques années, ma sœur et moi, on tente de mettre du sens dans tout ça.
Vas-y, dis-moi tout ce qu'elle voulait. Moi, je sais qu'elle m'a volé plein de... Souvent, c'était plein de crèmes à la con. Je pouvais lui demander n'importe quoi. Tu dis, est-ce que tu peux mettre ça dans tout ça? Qu'elle me disait, ouais.
Oui, tu fais ta liste, en fait.
Pendant des années, ma mère a volé dans les magasins. C'est quelque chose qui nous amusait beaucoup. Parce qu'on pouvait choisir tous les trucs qu'on voulait. Souvent, c'était des produits de beauté inutiles, mais hors de prix.
Ouais, les cosmétiques, les produits de parapharmacie, les lotions, la bouffe... La viande et les produits plus chers, le lisseur et l'épilateur électrique.
Le super butin.
Bah ça valait plus d'une centaine d'euros à l'époque.
Mais toi, t'avais quel âge quand elle a commencé à voler ?
Quand j'ai vraiment fait partie de sa manigance, parce qu'avant sûrement qu'elle le faisait mais j'étais pas forcément au courant, bah, je crois que je m'en suis rendu compte aux alentours de mes 12 ans peut-être, quelque chose comme ça, 10-12 ans.
Mais à 12 ans...
C'était plus un jeu, quoi. Oui, c'était un jeu.
Moi, je trouve ça fou, c'est qu'elle ne le fait plus.
Ouais.
Alors qu'elle a volé pendant des années.
Des années.
Depuis qu'elle est sous lithium, ouais. Elle ne vole plus.
Ouais.
Non, mais comme si ça, c'était vraiment déterminant de sa maladie.
Ouais, t'as peut-être raison. Quand elle est dans sa période up, elle voit pas les risques, en fait, c'est ça.
D'ailleurs, moi aussi en ce moment, je suis sous influence. Des hormones se diffusent partout dans mon corps. Elles arrivent de l'embryon qui s'est installé dans mon utérus. Un bébé grandit à l'intérieur de mon ventre. Bientôt, une longue partie de chamboule-tout va commencer. Et pour l'instant, je savoure cette période de grossesse. Moi aussi, grâce aux hormones, je suis invincible. J'ai le super pouvoir. Mais j'ai un peu peur de la redescente. À suivre.
Sur Arte Radio.